Bon, je vais aller remercier pour l'invitation, etc. Mais je ne veux pas perdre de temps, parce que ça peut serrer, et puis ce serait dommage pour le dernier qui parle, généralement. Merci à la mauvaise part. Bon, russe de la nature chez Kant, russe de la raison chez Hegel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commentateurs qui font ça, c'est de la philosophie pour classe de terminale, hein, tout fait.
Hein. Ouais, ça a été écrit.
Ok, admettons, je n'aurais même pu faire ça à l'université. Bon, mais bon, je suis d'accord avec toi, que je l'ai lu aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est
lié à
oui,
bon,
d'accord, c'est ce que je disais. Oui,
voilà. Deux noms.
C'est non, il en a donné.
J'en ai donné un, je répète.
Bon, alors, je vais aller assez vite et je vais certainement pas lire tout ce que j'aurais à dire sur cet ouvrage que j'ai lu à plusieurs reprises quand il m'a été donné, donc ça s'appelle sa parution. Et bon, pour dire, on n'est pas supposé ni me connaître, ni connaître les liens que nous avons, Jean-François et moi-même, c'est-à-dire que nous travaillons depuis très longtemps ensemble. Alors, pour dire petit un, je suis beaucoup moins qu'ancienne, même s'il est devenu sur le tard, je suis aussi devenue qu'ancienne sur le tard, mais beaucoup moins que lui. Je veux dire, je n'ai pas le même rapport à Kant, assez peu enseigné à Kant pour différentes raisons. Simplement que nous avons la même formation et le même type de rapport au texte, même si je considère qu'il le fait de manière encore plus rigoureuse et plus pointue que je ne le fais. Et donc, ce que je vais dire, c'est un compliment, mais un compliment de la part de quelqu'un qui, en quelque sorte, est d'entrée de jeu un rapport positif à ce type d'exercice. Je considère que c'est un superbe exercice d'exégèse et dans la tradition de ce que la philosophie académique française a de meilleur, c'est-à-dire, je ne vais pas dire par là que c'est un intérêt académique, je vais revenir là-dessus, mais en ce sens que c'est une lecture extrêmement pointue des textes, au plus près de leur expression littérale, avec, il en a donné l'exemple, et je ne vais pas revenir dessus, tout ce travail sur le moment où surgissent certaines notions, comment elles se déplacent, etc. Et, bon, comme on voit, ce n'est pas simplement un exercice de l'exégèse pour l'exégèse ou philologique, mais on aboutit à des interprétations, notamment un truc central dans ton interprétation, à savoir le rapport entre morale, éthique et droit, et la façon dont ça bouge, ou ce que tu fais sur le travail des concepts de volonté, arbitre, raison, etc., comment tout ça bouge, c'est, je trouve, extrêmement convaincant, et ça aboutit à quelque chose de véritablement innovant, pour autant que je connais, mais je le répète, je ne connais pas toute la littérature, le commentaire kantien. Bon, je ne vais pas traiter de l'ensemble de l'ouvrage, je vais me concentrer sur deux aspects, sur lesquels, un, je vais dire, dans un premier temps, parce que je suis entièrement convaincue par le livre, je referme en me disant, on veut que je parle là-dessus, mais qu'est-ce que je vais dire, parce que de toute façon, je suis d'accord de A jusqu'à Z. Bon, mais de toute façon, Jean-François a expliqué qu'il a mentionné une interprétation qui pouvait discuter, ce qui laissait entendre que le reste ne pouvait pas l'être. Pourquoi tu dis ça? C'est peut-être discuté, je reconnais. Bon, donc, je vais me concentrer sur deux points sur lesquels je vais dire à la fin mon plein accord et quand même des questions qui s'imposent. Deux questions, deux interrogations beaucoup plus que deux critiques. Alors, et pas du tout en fait de critiques. Un premier point, première thèse, je me concentre la thèse du formalisme de la philosophie pratique kantienne. Bon, tu montres, tu contestes donc ce formalisme dont on a fait reproche à Kant et notamment dont Hegel a fait reproche à Kant. Et tu montres aussi que cette philosophie pratique, en vérité, dans sa forme ultime, est une philosophie, tu l'as dit, de la normativité en général. Cela, d'ailleurs, donne à ton ouvrage, un essai sur Kant, modestement intitulé ou sous-intitulé Essai sur Kant, une actualité considérable, étant donné, mais je suppose que beaucoup d'entre vous le savent, l'importance dans le champ académique actuel, dans les travaux académiques, que ce soit, dans la pensée juridique, en philosophie, mais également en sociologie, de la réflexion sur les normes. On pourrait citer un certain nombre d'ouvrages, toute une série d'ouvrages. Ne perdons pas de temps. Donc, j'en reste à Hegel. Hegel donc disait que la philosophie pratique ancienne est formelle parce qu'elle ne veut pas déterminer le contenu de nos devoirs. Il le dit à différents endroits, il le dit en particulier, puisqu'il s'agit, et je me concentre sur la pensée du droit, c'est quand même au cœur de ton propos, dans le paragraphe 29 de la philosophie du droit, je ne le recite pas, mais enfin, il cite approximativement la définition kantienne du droit en disant que on ne peut en tirer, se résume au principe dans ce qu'elle est positif, elle se résume au principe de non-contradiction, et on ne peut en tirer rien de substantiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en déduire des devoirs définis. À quoi tu réponds? Que, mais non pas en fait qu'il n'est pas formel, mais qu'il n'y a pas à lui faire reproche parce que c'est pas ce qu'il veut faire. en tirer des, je veux dire, d'une certaine manière, tu ne contestes pas ce formalisme entendu en ce sens, à savoir on ne peut pas en tirer des devoirs définis, et tu dis que ce n'est pas son objectif, et donc on ne peut pas lui faire reproche. Ce n'est pas son objectif, ce n'est pas non plus l'objectif de l'impératif catégorique en général. La raison pratique, parce qu'elle est pure, n'est pas, je te cite quasiment, un pouvoir d'édiction des normes. Ce qu'elle fournit, c'est simplement un test, donc l'impératif catégorique, ou, pour citer l'expression de Habermas, notamment le principe U, un test permettant, principe de reconnaissance, une expression que tu utilises aussi, permettant donc d'éprouver la validité normative, règle de reconnaissance permettant d'éprouver la validité normative de toute norme proposée à l'examen, donc d'apprécier pour toute norme concrète, qu'elle soit morale ou qu'elle soit juridique, ce qu'il en est de ça, bon, allemand, Verbindlichkeit, que tu traduis, et effectivement, ça me semble la bonne traduction, par obligatoriété. C'est la bonne traduction, mais c'est pas facile à prononcer. Donc, c'est un test permettant d'apprécier si la prétention d'une norme à obliger est rationnellement justifiée. Ce que tu résumes en ces termes, je te cite, « Dans l'entreprise d'établissement du pouvoir normatif de la raison pure, ce ne sont pas des normes qui sont en cause, mais la normativité comme telle, c'est-à-dire la structure formelle, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne, ou a priori des propositions déontiques. » Je pense que, par d'autres biais, hein, je travaille sur essentiellement sur la doctrine du droit et la théorie de la propriété, moi c'est là-dessus que j'ai le plus travaillé, j'ai écrit quelque chose qui, à mon sens, dit à peu près la même chose, et tu l'apprécieras, il faudra qu'on en discute, en disant que la philosophie pratique kantienne, dans l'état de la métaphysique des mœurs, hein, donc l'état final en quelque sorte, n'est pas autre chose qu'une analyse de la grammaire des termes fondamentaux du langage, de la morale et du droit moderne. Grammaire au sens wittgensteinien. Et dans le même texte, j'écrivais, c'est un texte qui n'est pas publié mais que Jean-François connaît, on aurait de bonnes raisons de considérer que ce concept, l'obligatoriété, plutôt que celui de devoir, tu dis toi obligation, tu traduis obligation, est le concept le plus fondamental de la théorie morale kantienne, en ce sens que cette théorie a pour but essentiel d'en élucider le sens, donc élucider le sens de la Verbindlichkeit, du devoir, de l'obligatoriété, donc et expliquer ce qui fait que le devoir oblige. Alors, sur ce premier point, j'ai un problème pourtant, et un problème que je me pose à moi-même, hein, comme à toi. S'il est vrai, il m'est venu sur le tard, comme je te dis, quand j'ai lu ton texte, je suis entièrement d'accord. S'il est vrai que la raison pure n'édicte pas des normes déterminées, si elle n'est pas par conséquent la source des normes, je ne n'aborderai pas la question de la raison pratique. Je me pose des questions à ce propos, puisque tu appelles, non, la raison publique. Je reste simplement à ce noyau. S'il est vrai, je le crois, que la raison pure n'édicte pas des normes déterminées, si elle n'est pas par conséquent la source des normes, donc cette source devant être cherchée dans la raison publique, quel est le statut des droits et des devoirs qui sont développés dans la doctrine du droit, sous le chapeau du droit privé comme du droit public, et corrélativement, quel est le statut des devoirs exposés dans la doctrine de la vertu? Le droit de propriété en particulier, puisque je m'intéresse en particulier à cela, entendu comme le droit d'avoir quelque chose, voire quelqu'un comme sien, n'est-il pas déduit par Kant, déduit du principe qui fait la normativité du droit? Et même chose, de l'obligation de sortir de l'état de nature, c'est-à-dire d'instaurer un état juridique. Et me posant cette question tout récemment d'ailleurs, et me la posant à moi-même, je me suis demandé si c'était un hasard, si ton argumentation dans l'ouvrage s'appuie plus volontiers sur les textes introductifs, introduction à la métaphysique des mœurs, introduction à la doctrine du droit, que sur le contenu de la doctrine du droit et de la doctrine de la vertu, avec l'exception des pages consacrées à la lex permissiva et la justification de la propriété privée. D'accord, ça c'est ma première question, avec juste une petite, ça c'est en passant, à propos de ton passage, mais ça tu le sais aussi, sur l'interprétation qui n'est pas fondamentale pour toi, tu t'en sers simplement pour expliquer la fonction de la lex permissiva, quand tu cites la formule de Kant à propos de la propriété beati possidentes, tu dis qu'elle ferait entendre la réciproque « malheur à celui qui n'a rien ». Je ne pense pas, si on faisait la lecture du texte au plus près, quoi, même si ça donne cette impression en première lecture, c'est ce qu'on pense, parce que je crois que la justification kantienne de la propriété privée, certes, ne permet pas de définir définir une justice distributive au sens où on l'entend aujourd'hui, le principe de répartition plus ou moins égaux, équitable, comme on voudra, mais elle ne permet pas non plus d'accepter que des personnes, des êtres humains, il n'est question que d'eux, ou le martien si tu veux aussi, soient totalement dépourvus de propriété. Donc, quand on dit personne n'est obligé de justifier sa possession, c'est-à-dire on ne va pas discuter de savoir s'il en a trop et trop peu, mais je dirais jusqu'au point limite où cette possession impliquerait l'absence de propriété d'autre, quel qu'il soit. Et ce point est certes à peine indiqué dans la doctrine de droit. Il est dans l'idée de la possession commune originaire, et il est, bon, ce que j'ai essayé de montrer, j'ai plus loin découvert en lisant les textes du Narlas, ou les textes préparatoires à la doctrine du droit, où Kant discute de cette question de savoir s'il est possible d'imaginer une appropriation qui ne laisserait rien aux autres, considérant que c'est un point limite qui n'est pas pensable. J'ajouterai une chose, c'est que, mais je ne peux pas le faire faute de temps, c'est que je pense qu'on peut revenir sur cette question à partir du droit cosmopolitique. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de la différence entre le droit cosmopolitique du texte de Idée pour une histoire universelle de l'humanité et les textes plus... le traité perpétuel, la doctrine du droit la doctrine du droit, donc il y a une différence certes. Je suis entièrement d'accord, j'ai d'ailleurs pas de désaccord, mais il me semble que Kant utilise dans sa réflexion, seconde version du droit cosmopolitique, des arguments qui sont rigoureusement identiques à ceux qu'il utilise à propos de la théorie de la propriété. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... Donc on peut revenir en arrière, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement que chaque peuple a un droit à avoir un lieu sur Terre, mais chaque individu a droit à avoir un lieu sur Terre. C'est la même structure de l'argument, c'est-à-dire qu'il raisonne à partir de la finitude de la Terre, du fait que il y a des gens qui sont installés ou des peuples qui sont installés ici ou là, et chacun, alors à partir de ça, il raisonne, critique la colonisation, on pourrait renverser, s'interroger avec ses arguments sur les problèmes de l'immigration, mais fondamentalement, à la base de tout cela, il y a la thèse selon laquelle chaque individu, chaque peuple, a droit à avoir un lieu pour vivre libre sur Terre. Donc, je crois que c'était marginal par rapport au cœur de mon propos dans cette première question qui concernait donc le statut des droits et devoirs, ou droits ou devoirs, donc qui sont déduits ou exposés, je ne sais pas, dans la doctrine du droit et dans la doctrine de la vertu. Deuxième angle, je ne dirais pas d'attaque, parce qu'à chaque fois c'est pour dire d'abord mon accord, mais d'interrogation. Bon, le point à mon avis culminant de ton analyse, c'est le chapitre 3. Dans lequel, tu l'as évoqué, l'enjeu, ce qui m'apparaît comme l'enjeu central de ton travail d'exégèse apparaît clairement, c'est-à-dire de fournir au positivisme juridique, certes repensé, une solide assise philosophique. Bon, ta thèse, tu parles d'hypothèse, mais je crois que c'est beaucoup plus qu'une hypothèse, tu en fais beaucoup plus qu'une hypothèse, c'est l'autonomie du juridique par rapport à la morale. Donc ta thèse, c'est que les derniers textes de Kant permettent de penser, tu l'as dit, un impératif catégorique juridique distinct de l'impératif éthique, dont la dignité n'est pas moindre. Autrement dit, Kant serait un précurseur du positivisme, mais, je te cite, un précurseur paradoxal. Paradoxal parce qu'il n'oppose pas sa conception du droit à celle du droit naturel moderne, mais qu'il il prétend, et il est certainement convaincu, de ne pas faire autre chose que de rénover, de repenser, d'asseoir plus solidement le droit naturel moderne. Donc le fonder plus solidement qu'il ne l'a été jusqu'à Kant. Alors bien sûr la question se pose, Kant précurseur du positivisme, précurseur paradoxal certes, mais la question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par positivisme. Une page plus loin, par contre, page précurseur paradoxal, page 138, une page plus loin, tu rappelles que Kant est un adversaire du positivisme au sens usuel, c'est-à-dire de la thèse selon laquelle les droits et les devoirs des individus seraient entièrement déterminés par le droit statutaire, le droit, disons, étatique statutaire, c'est clair. Droit positif au sens banal du terme. Kant donc n'est pas positif, ce n'est pas positif par exemple au sens de Kelsen, de ce point de vue-là. Il ne pourrait pas affirmer que tout État est un État de droit, ça se discute. je propose d'affirmer que c'est une interprétation qui peut être discutée. Kant n'est pas positiviste en ce sens, parce qu'il soumet bien la validité du droit statutaire. Ici, j'entends par droit statutaire le droit positif au sens ordinaire, disons étatique, pour faire simple. Il soumet bien la validité du droit statutaire à sa conformité aux exigences de la raison. Donc, Kant, et je reprends une formule de toi dans les mêmes pages, est un précurseur du positivisme en ce qu'il a de raisonnable, en ce que le positivisme a de raisonnable, à savoir, il est précurseur du positivisme tout simplement parce qu'il affirme que l'indépendance de la normativité juridique par rapport à la normativité éthique. Bon. Ce qu'il y a dans cette démonstration, tu as des cibles que tu visais, Dworkin notamment, et puis tu évoques notamment Habermas. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que lui prétend affirmer qu'il fait une différence entre le juridique et le moral, mais toi tu dis que, je crois à juste titre, c'est pas vrai. Bon, je passe, mais bon, il y a, ce que tu as évoqué, une tendance, un certain nombre d'auteurs aujourd'hui, à penser le juridique comme un ordre de normativité qui est subordonné à la morale, l'éthique au sens de Kant, dernière version, mais disons la morale dans le vocabulaire contemporain. Alors cette thèse, ce positivisme paradoxal n'est pas facile à dire en évitant les compréhensions. Je crois d'ailleurs que tu le dis fort bien. Mais si je suis en plein accord sur le fond, précisément parce que ce n'est pas facile à dire, j'ai des objections à certaines de tes formulations. C'est là-dessus que je vais terminer, c'est-à-dire sur un travail d'exégèse aussi. Page 141, c'est-à-dire en lisant avec toute la, vous pouvez imaginer la bénévolence qui était la mienne, brusquement j'ai sursauté, et voilà, page 141, tu cites comme symptôme de la tendance actuelle à subordonner le droit à la morale, donc symptôme de cette tendance, il critique, le phénomène de la juridification, voire de la constitutionnalisation des droits de l'homme et des textes qui les ont proclamés. Fin de citation, et même page, peut-être un peu plus loin. Je te cite, « Il me semble que dans une situation de pluralisme culturel et moral, le credo positiviste, tiré, seul le droit donne des droits, donc ça serait ça le credo positiviste, conserve sa valeur et peut être défendu avec des arguments forts. » Et c'est là que je sursaute et je mets un point d'exclamation dans la marge. S'agissant de la dernière phrase, « Le credo positiviste, seul le droit donne des droits, conserve sa valeur et peut être défendu avec des arguments forts. » Cette formulation prête aisément à une interprétation positiviste au sens le plus ordinaire du terme. Parce que la question se pose de savoir quel est ce droit au singulier qui est le seul à donner des droits. Est-ce que c'est le droit objectif édicté par l'État ? Dans ce cas-là, si tu réponds cela, on est très proche des auteurs qui soutiennent la priorité du droit objectif, c'est-à-dire étatique, sur les droits subjectifs, quand les auteurs en question ne contestent pas purement et simplement la pertinence de la notion de droit subjectif. Ce qui n'est pas ta position. Ce qui n'est pas ta position, parce que tu notes notamment quelque part, bon, c'est la logique de ton propos, mais surtout tu dis explicitement quelque part, page 126-127, à propos de la distinction que fait Kant entre Naturrecht au singulier et Natürliches Recht, donc le droit naturel et les droits naturels, tu notes que Kant a anticipé la distinction que feront bientôt les juristes entre droit objectif et droit subjectif. À mon sens, il a fait plus que l'anticiper. Je pense que la doctrine, enfin ma thèse est que la doctrine du droit, c'est la théorie la mieux fondée et la plus systématique des droits subjectifs, même si Kant ignore l'expression qui n'arrivera que plus tard. Bon, la structure même de la doctrine du droit, le fait d'affirmer, la construction de la doctrine du droit, donc qui détermine le droit privé, le contenu du droit privé, donc le mien et le tien, abstraction faite de l'existence d'une constitution civile, hein, qui n'intervient dans un second temps, cette construction a pour sens, me semble-t-il, d'affirmer la priorité des droits subjectifs sur le droit objectif, même si des droits subjectifs découlent l'exigence de l'instauration d'un état civil ou d'un état juridique, comme dit Kant. Alors, ça, bon, pour cette formulation, cette seconde formulation que je trouve pour le moins ambiguë, hein, et la première formulation que je citais, le phénomène, pardon, symptôme donc de la tendance actuelle à subordonner le droit à la morale, le phénomène de la juridification, voire de la constitutionnalisation des droits de l'homme et des textes qui les ont proclamés. La formulation peut laisser penser que les droits de l'homme sont une catégorie morale, c'est-à-dire éthique, au sens de Kant, dernière version, raison pour laquelle leur juridification, et a fortiori leur constitutionnalisation, serait une entreprise discutable du point de vue de la conception de la normativité juridique que tu trouves chez Kant et que tu défends. Telle quelle la formulation donne cette impression-là. Et ma question est, est-il vrai que les droits de l'homme sont une catégorie morale ? Sans entrer dans le détail, il me semble que... J'ai quelques minutes encore, hein, parfait. Il me semble que l'idée de droits de l'homme, donc droits qui sont attachés à l'être humain en général, pour autant qu'il est une personne, se laisse déduire de la notion kantienne de droit de l'humanité. Donc, je crois que tu ne fais pas état dans le texte. Hein. Mais bon, je pense que c'est un rapport, c'est pas pour dire que tu n'as pas traité de ça, tu traites de ce que tu veux traiter, mais je pense que c'est un rapport avec les questions que tu poses. Si on creuse cette notion de droit de l'humanité, dont la place est assez indécise, d'ailleurs totalement indécise dans la métaphysique des mœurs, on est amené à se demander si elle n'est pas le véritable fondement ultime de l'obligatoriété de l'affaire Bindlichkeit dans ses versions éthiques aussi bien que juridiques. Kant le dit explicitement dans certains textes du Narlas, je pourrais donner la référence, où il dit à un moment que le droit de l'humanité est la force qui oblige en tout droit. Tout droit. Dans l'introduction à la métaphysique des mœurs, il écrit que l'impératif catégorique ne fait qu'exprimer ce qu'est l'obligatoriété en général. Il l'exprime, mais il ne fait que l'exprimer, et le fait qu'il l'exprime ne signifie pas qu'il en soit la raison ou le fondement. Donc, en d'autres termes, les devoirs n'obligent pas parce qu'ils sont la conséquence de l'impératif catégorique, sinon ils garderaient quelque chose de la contrainte, même si c'est la contrainte de la règle d'universalisation. L'impératif catégorique est une formule commode pour exprimer l'obligatoriété du devoir, mais il ne suffit pas à expliquer en vertu de quoi l'impératif catégorique lui-même oblige. Non. Or, il me paraît que le droit de l'humanité, au contraire, l'explique si l'on comprend le rapport qui existe entre cette notion et la liberté constitutive de la personne. Tout le monde connaît la fameuse formule de l'introduction, toi tu la connais certainement, à la métaphysique des mœurs, et personne, le sujet dont les actions sont susceptibles d'imputation, c'est-à-dire le sujet dont les actions peuvent être considérées comme des actes, dont il est l'auteur et par conséquent responsable. C'est conforme à la définition de l'acte que tu reproduis, hein, donnée dans le même texte, à savoir on nomme acte une action, tat, dans la mesure où elle est soumise à l'obligatoriété sous des lois et par conséquent aussi dans la mesure où le sujet est considéré dans cette action selon la liberté de son arbitre. Bon, le sujet libre, l'action du sujet libre est une tat. Donc, la liberté au sens de l'arbitre doit être postulée pour que les notions de personne, de responsabilité et corrélativement les notions de droit et de devoir aient un sens. Ce qui veut dire que nous ne pouvons accorder des droits et imposer des devoirs qu'à des êtres auxquels nous reconnaissons le statut des personnes. Je ne sais pas ce qu'il en est du martien, mais des animaux probablement pas, mais tout aussi bien que je ne peux prétendre avoir des droits qu'autant que je suis pour moi-même une personne, c'est-à-dire je me considère et probablement que j'agis comme libre, comme un être libre, et par conséquent que je me considère comme responsable de mes actes. Évidemment, tout ceci, ce développement impliquerait de s'interroger sur les critères qui font que je reconnaisse un être comme une personne. Et là, il y a la porte ouverte pour le questionnement où. Pourquoi les gens me reconnaissent comme personne, la porte ouverte à la question de la reconnaissance que vont reprendre et Fichte et Hegel par la suite. Quant à ma connaissance, ne s'y est pas engagé. Le droit inné qui est évoqué à la fin de l'introduction à la doctrine du droit, donc liberté, égalité, le fait d'être son propre maître, il donne plusieurs définitions, mais à mon avis celle-ci est la plus, la plus précise, le droit d'être son propre maître, c'est la déclinaison du droit de l'humanité au plan des relations extérieures entre les hommes. parce que la possibilité de prétendre à des droits et de se voir imputer des devoirs découle de ce droit inné, il me semble, et je reviens au droit de l'homme, il me semble que l'on peut voir dans ce droit inné l'équivalent de ce que Arendt a nommé, mutatis mutandis, hein, le droit à avoir des droits. Et peut-être est-ce là le sens plus profond des droits de l'homme, à ceci près que pour Kant, il n'y en a qu'un. Le droit de l'homme, il est unique. Le fait que Kant ait rejeté ce droit dans les prolégomènes, ce qu'il dit au début, hein, quand il évoque dans l'introduction le droit inné, il dit que, pour qu'il oppose au droit acquis, dans la doctrine du droit, il ne sera question que des droits acquis, je rejette ce droit dans les prolégomènes. Le fait que Kant le rejette ce droit dans les prolégomènes, donc le fait que ce droit n'appartienne pas à la doctrine du droit stricto sensu, implique certes qu'il ne prête pas à une juridification, ce qui donne raison. Il ne peut pas être juridifié. Mais cela ne veut pas dire pourtant qu'il s'agisse d'un droit moral au sens moderne du terme et éthique au sens de Kant, en ce sens que ce droit n'aurait rien à voir à faire avec le droit. Il a rapport avec le droit parce qu'il est la déclinaison du droit de l'humanité dans le registre des relations extérieures entre les hommes, qui est précisément celui de la normativité juridique. Est-ce que je suis clair ? Ah, j'ai voulu aller vite. Merci, j'ai fini.
Merci infiniment. Je me demande si Philippe Renaud le permet, si ce ne serait pas mieux qu'on donne quelques minutes à Jean-François pour répondre aux deux points de l'autre. Peut-être plus direct, ça vous dirait que le public vous dit. Les... Enfin, vous préférez.
C'est le président. Je peux essayer de répondre très rapidement, tout d'abord en disant que Catherine, ça ne m'étonne pas tellement, me comprend mieux que je ne me comprends moi-même. Je prends acte de. Alors, elle a soulevé une grande difficulté à laquelle j'avoue ne pas avoir une réponse. La première question que tu m'as posée, la grande difficulté qui consiste à dire, bon, d'accord, l'impératif catégorique n'est pas ce qui permet d'engendrer des normes, c'est pas ce qui permet d'engendrer des droits, des obligations, etc. Mais alors, la raison commune comme stock, en quelque sorte, d'accord, mais quand même, qu'est-ce qui permet à Kant de dire dans la doctrine du droit, ben voilà... tel droit, la propriété, le contrat, etc. Bref, d'avoir une théorie du droit naturel avec un certain contenu, d'où ça vient, etc. Ça, c'est une difficulté fondamentale. Et du coup, c'est lié à la deuxième question, à savoir, est-ce qu'on peut vraiment dire, comme je l'ai dit un petit peu, de manière un peu provocatrice, que Kant était un précurseur du positivisme juridique ? Il ne peut pas l'être entièrement, puisque précisément tout le contenu de la doctrine du droit expose ce que, en termes classiques, on appellera une théorie du droit et des droits naturels. Ça, c'est tout à fait clair. Si j'ai fait ce rapprochement avec le positivisme juridique, c'est que tout simplement je pensais aux fameux 5 critères du positivisme que formule Hart dans une note célèbre du concept de droit. Il dit voilà, on peut distinguer 5. Il y a 5 critères qui permettent d'identifier une position positiviste et qu'une théorie du droit peut satisfaire soit un par un, soit tous ensemble. Et parmi ces 5 critères, comme on sait, il y a la délimitation entre droit et éthique. Et c'est seulement de ce point de vue que je dis que Kant, dans la mesure où il insiste très fortement dans la métaphysique des mœurs sur la nécessité de bien distinguer la sphère des obligations éthiques et la sphère des obligations juridiques, en ce sens seulement, ce juste naturaliste convaincu qu'était Kant peut être considéré comme un précurseur du positivisme juridique. Il va de soi que... c'est compliqué l'histoire de l'articulation droit privé, droit public, il faut sortir de l'état de la réinterprétation de la maxime hobbienne, il faut sortir de l'état de nature, et donc à partir du moment qu'on est sorti de l'état de nature, eh bien, c'est le souverain qui devient de fait... L'interprète institutionnel du droit naturel, c'est-à-dire que les commandements du souverain deviendront de fait, ce qui pose évidemment le problème, ce qui subsiste, deviendront de fait l'explicitation autorisée des principes du droit naturel, ce qui bien sûr pose le problème, mais si le souverain se trompe ou s'il abuse de son pouvoir, etc., y a-t-il un droit de résistance ? Bon, vieux débat, Locke, Kant, Hobbes, Hegel, enfin, c'est très compliqué. Donc, tu as tout à fait raison. Pour ce qui est alors du droit de l'humanité, que tu assimiles, si j'ai bien compris, alors à ce fameux droit unique, droit inné.
Moi, je dis que c'est la déclinaison dans le domaine du droit de l'humanité.
Oui, non, mais...
Parce qu'il y a aussi le droit de l'humanité vers soi-même, comme soi-même, etc.
Qui c'est... constitue le sujet moral, en fait.
Le sujet moral, c'est pas...
Je suis assez d'accord. Et puis alors, d'ailleurs, je l'ai dit quelque part dans le livre aussi, l'interprétation de l'unique droit fondamental comme droit d'avoir des droits, le rapprochement avec Arendt, ça je suis tout à fait d'accord, la liberté, au sens où l'entend, la liberté, pas du tout au sens, la liberté comme concept métaphysique, mais la liberté juridique, c'est ce qui confère aux personnes le droit d'avoir des droits. Et en ce sens, moi, je suis tout à fait d'accord avec ton... Alors, je suis d'accord aussi pour dire que page 141, dans les textes que tu as cités, j'ai poussé le bouchon un petit peu trop loin.
Ça va, je suis contente.
Mais bon, c'était peut-être de l'humeur. Voilà.
Merci. Merci, Catherine.